BW. Droits et libertés.
La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît à tous les humains un droit à la santé. Pourtant, la période de pandémie que nous sommes en train de traverser a mis en évidence de grandes inégalités en matière d'accès aux soins, à la vaccination par exemple. On en parle cette semaine dans ce magazine, mais d'abord je vous emmène au Brésil où une ville propose un projet pilote de revenu universel minimum qui prévoit aussi la gratuité de nombreux services. Un projet qui est pourtant aussi critiqué. On voit tout de suite pourquoi. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. Imaginez des bus et des locations de vélos gratuits pour tous, des trottoirs flambant neufs, des cinémas qui ne sont pas payants. Sur le papier, la vie des habitants de Maricá, à 1h30 de voiture environ de Rio de Janeiro, ressemble à un petit paradis social. Les autorités y ont aussi mis en place un revenu universel, sans condition d'admission, qui repose sur une monnaie sociale locale inventée pour l'occasion. Cette expérience, à l'initiative de la mairie de gauche, est souvent citée en exemple par Lula da Silva du Parti des Travailleurs, à 1 an des prochaines élections au Brésil. Et pourtant, ce modèle fait bondir certains écologistes parce qu'il est financé par l'exploitation du pétrole. Les lieux sont enchanteurs. Une plage de sable blanc qui s'étend sur des kilomètres, derrière la lagune, bleue, entourée de collines bien vertes. Maricá, ce sont 160 000 habitants à peu près. C'est une ville de la côte atlantique du Brésil. Jessica Ivana, 30 ans, y travaille comme balayeuse de rue. Elle vit dans la banlieue pauvre de Jacaroa avec son mari et ses deux enfants. Mais ça va bien.
Il y a des gens qui viennent de partout voir Maricá, parce qu'ici, il y a plus d'emplois et de bonnes conditions pour élever ses enfants. C'est calme, on n'a pas le chaos, la violence, les échanges de tirs qu'on trouve dans d'autres villes. Il n'y a pas tellement de scandales, tout est calme.
Maricá se trouve à une soixantaine de kilomètres à l'est de Rio et pourtant c'est un tout autre monde que dans la métropole. Les personnes les plus pauvres, soit environ 42 000 habitants quand même, y ont droit à un revenu universel de base dont le montant a été revu à la hausse durant la pandémie pour passer à environ 150 euros par mois. En plus de ça, les transports en commun sont gratuits, tout comme les écoles et l'université. Et puis, la ville dispose d'une bonne infrastructure de santé, le courant électrique et l'eau sont subventionnés, et ceux qui, comme Jessica Ivana, décident de construire une maison, bénéficient d'un crédit à taux zéro.
Entendeu? Et ici, tá gerando muita coisa, muita oportunidade.
Ici, on nous donne la possibilité d'avancer dans la vie.
Dá oportunidade para que você venha crescer.
Son revenu universel, Jessica Ivana, ne le reçoit pas en real, la monnaie officielle du Brésil, mais en Mumbuca. C'est une crypto-monnaie locale qui est arrimée au real à un taux fixe de 1 pour 1. Cette monnaie est censée relancer l'économie locale. D'ailleurs, sur place, presque partout, elle est acceptée. On peut payer avec dans les supermarchés, les pharmacies, les magasins d'outillage, par exemple. Bon, le Mumbuca ne marche pas pour l'alcool et les cigarettes. Manuela Meio, présidente de la banque locale Mumbuca, explique ce fonctionnement.
C'est une banque qui ne gagne pas d'argent. Tous nos bénéfices sont redistribués aux habitants de Maricá.
La carte de crédit de cette banque non lucrative est de couleur rouge. Rouge comme les bus gratuits de la ville, la façade de la mairie ou encore le nouveau cinéma gratuit lui aussi. Donc, évidemment, le choix de cette couleur n'est pas anodin puisque c'est le Parti des Travailleurs très à gauche qui dirige la municipalité.
Même si beaucoup ne connaissent pas Maricá, pour moi, cette ville est la preuve que le Brésil peut encore fonctionner. de que a gente pode provar que o Brasil pode dar certo.
Là, vous aurez peut-être reconnu la voix de Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, l'ancien président du Brésil qui est reparti en campagne. Et il a choisi Marika comme décor pour marquer le point de départ de sa lutte contre l'extrémiste de droite Jair Bolsonaro, qui préside actuellement le pays. D'autant que Bolsonaro a toujours minimisé la pandémie de Covid-19 qui a fait des ravages au Brésil et que Marika s'en sort plutôt mieux que d'autres villes du pays. Le maire Fabiano Horta a été élu avec 88% des suffrages en novembre dernier. De quoi être fier.
Nous avons pour principe de relier l'économie et la politique en matière de santé et ça a porté ses fruits. Nous avons établi un programme d'urgence pour que les gens aient les moyens de rester chez eux pour se protéger du coronavirus.
Grâce aux revenus universels, les plus pauvres aussi ont pu rester confinés chez eux. Et puis un nouvel hôpital a été construit qui compte 116 lits de soins intensifs supplémentaires. L'établissement porte le nom de Che Guevara et il est dirigé par une certaine Michelle Silvares.
Près de la moitié de nos patients viennent des communes alentour. Notre hôpital a une importance capitale pour toute la région.
Voilà pour les aspects positifs de cette aventure de Marika. Mais, car il y a un gros mais, d'où vient l'argent qui permet de financer tout ça? Eh bien, il ne tombe pas du ciel, bien sûr. Ce qui remplit les caisses de la mairie, ce sont les gigantesques réserves de pétrole au large de la ville. L'entreprise semi-publique qui paie des licences d'exploitation à la municipalité génère des revenus de près de 150 millions d'euros par an pour la ville. Alors, ce modèle est-il vraiment durable? Et puis surtout, peut-il être exporté ailleurs, généralisé dans l'ensemble du pays? Oui, assure le maire.
Tem uma renda básica estabelecido aqui desde 2013.
C'est en 2013 que nous avons instauré le revenu minimum et à l'époque, nous n'avions pas autant de moyens. C'est une décision politique d'abord que de garantir aux citoyens un revenu minimum pour qu'ils aient la garantie de pouvoir subvenir à leurs besoins fondamentaux. C'est une décision politique que de faire un premier pas en ce sens et c'est seulement après qu'il faut que le budget suive.
No orçamento do município.
Écoutez bien Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Tous les responsables politiques n'ont pas la même fibre sociale que le maire de Marika qu'on vient d'entendre. Et la Covid-19 a mis en évidence partout dans le monde que, décidément, nous n'étions pas tous logés à la même enseigne face à la maladie et pour l'accès aux soins et aux vaccins. Pourtant, il revient principalement aux États de subvenir aux besoins de santé de leur population, de leurs citoyens, quelle que soit leur extraction sociale. C'est ce que rappelle Agnès Binagwaho, ancienne ministre de la Santé du Rwanda.
Tous les pays ont signé un engagement en ce sens. Nous avons tous ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit le droit à la santé. Donc oui, si les États ont pris le temps de signer et de ratifier ce texte, cela signifie qu'ils reconnaissent ce droit. Le droit à la santé n'est pas le droit à être en bonne santé. Ce droit garantit à tous un accès égal aux soins et aux services de santé.
Le droit à la santé est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. En 1976 est aussi entré en vigueur le Pacte social des Nations Unies, ratifié par 171 États membres, parmi lesquels aussi des pays d'Afrique subsaharienne. Le droit à la santé, c'est d'abord l'égalité dans l'accès aux soins, on vient de l'entendre, c'est-à-dire une répartition équitable des ressources, des médicaments, des vaccins ou même des lits d'hôpital. L'objectif serait que partout dans le monde, des soins adaptés soient accessibles à tous. Et on en est encore bien loin, bien sûr. Michael Krennerich, politologue de l'université d'Erlangen-Nuremberg en Bavière.
Certains États d'Afrique ont intégré les droits humains sociaux dans leur constitution. Il faut regarder au cas par cas. Y a-t-il la possibilité de porter plainte pour faire valoir ses droits devant les tribunaux? Il faut voir si la justice nationale est compétente en la matière ou s'il faut recourir aux tribunaux régionaux. Cela dépend de la reconnaissance ou non par les États des cours sous-régionales, ce qui n'est pas le cas partout en Afrique. Un État qui, par exemple, a des dépenses très importantes en matière de défense et qui ne traite la pandémie que de façon subalterne, doit revoir ses priorités budgétaires. Dans ce cas, on ne peut pas dire pendant une pandémie qu'on n'a pas d'argent à y consacrer.
Ce qui a été éclatant durant cette pandémie, c'est l'impossibilité pour l'Organisation mondiale de la santé d'imposer ses vues aux États. Agnès Binagwa vous explique pourquoi.
L'OMS n'impose rien, elle fait uniquement des recommandations au monde. L'OMS représente la science et ses conseils s'orientent dans le bon sens comme dans le mauvais en fonction de la science.
Et les intérêts des responsables politiques ne sont pas les mêmes que ceux des scientifiques. Mais dans le meilleur des cas, les politiciens doivent se sentir redevables vis-à-vis de leurs concitoyens, ne serait-ce que parce qu'ils sont aussi des électeurs.
La population d'un pays a le droit de dire qu'elle a d'autres priorités, point final. Le Burundi, par exemple, est un pays qui vient de sortir d'une élection. Les Burundais ont élu des gens qui les représentent, donc ces personnes leur parlent. C'est le jeu de la démocratie.
Et comme le rappelle Michael Krenarich, ce cas n'est pas spécifique à la COVID-19, même si ce virus a tendance en ce moment à éclipser toutes les autres maladies qui n'ont pas pour autant disparu de la surface du globe.
En même temps, il faut garantir des soins standards. Nous avons d'autres maladies en Afrique qui ne doivent pas être négligées, dans le sens où les gens meurent d'autre chose, parce que maintenant, toutes les ressources vont à la lutte contre la pandémie de corona. Mais si l'État restait inactif, il se rendrait coupable une violation du droit à la santé.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Antonio Cascais pour les sons sur le droit à la santé, ainsi qu'à Anna Herberg pour ceux du Brésil. Pour podcaster Droits et Libertés, rien de plus facile. Rendez-vous sur notre site internet dw.com/français dans la rubrique Nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien. Me uyure.